féminisme de
Françoise Mariotti.
Bonjour Françoise.
Bonjour Nathalie.
Eh ben, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième édition de votre émission Le féminisme de Françoise Mariotti. Le mois dernier, vous avez déconstruit la Saint-Valentin avec William et ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet qui plus que dérange et on va essayer de comprendre, vous allez essayer de nous dire pourquoi il dérange, qui il dérange. Et on va parler de la prostitution.
D'accord. On parle de système prostitutionnel.
D'accord.
Je vous dirai pourquoi.
D'accord. Je voulais juste citer quand même la personne qui m'a inspirée pour les questions. Donc, vous, pour préparer cette rencontre, vous m'avez envoyé un long et bel interview de Geneviève Duché par Francine Sporenda, article qui s'appelle « Pas de démocratie avec la prostitution ». Donc, je rappelle que Geneviève Duché est une universitaire, sociologue, économiste et féministe. Elle est l'ex-présidente. Alors ça, je vous dirai pourquoi j'ai pris une petite note de l'Amicale du Nid et a écrit plusieurs livres sur la prostitution, dont non au système prostitutionnel. Et pourquoi j'ai mis une petite parenthèse ? Parce que quand on tape « ex-présidente » dans Google, ça vous met une faute d'orthographe, ça n'existe pas.
Il y a «
ex-président »,
ah, d'accord.
Mais pas « ex-présidente ». Voilà,
c'est bien, ça veut dire qu'on peut être présidente à vie, alors.
Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « mince, alors ça, je vais le raconter à Françoise
oh, ». Il y a beaucoup de choses comme ça.
La première question, est, bon, bien sûr, elle sort de cet article, mais on en a parlé quand on a préparé toutes les deux. J'aimerais que vous nous éclaircissiez sur les différentes positions aujourd'hui face à la prostitution. Les abolitionnistes et les libérationnistes, mais plus précisément aussi au sein des abolitionnistes, l'abolition, la prohibition, la réglementation. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais que vous nous éclaircissiez un petit peu.
C'est pas simple. D'abord, je vais dire bonjour aux auditrices. Et puis, je voudrais quand même rappeler en commençant que cette question-là de la prostitution, du système prostitutionnel, c'est une extraordinaire violence qui ne génère qu'une extraordinaire indifférence. Ce sont des propos de Daniel Bousquet qui a conduit un rapport sur la prostitution en 2011 avec Geoffroy. Et c'est à partir de là que des discussions ont été élaborées en France. Alors vous me posez une question qui est... La réponse est très longue parce que ce n'est pas tout à fait comme vous l'avez présenté. En fait, face à la prostitution, il y a plusieurs régimes juridiques et politiques. Il y a d'abord des pays qui interdisent la prostitution. Ça s'appelle le prohibitionnisme. La prostitution est d'ensemble considérée comme un mal pour tout le monde, pour toute la société. Et l'objectif, c'est l'interdiction pure et simple de la prostitution. Donc, quand je parlais de système prostitutionnel tout d'abord, ça veut dire le client, l'acheteur d'actes sexuels, le proxénète et la personne en situation de prostitution. Ce sont les trois acteurs et actrices incriminés dans le système prostitutionnel. Dans le prohibitionnisme, ils sont considérés tous les trois comme délinquants. Alors, parmi les pays prohibitionnistes, il y a l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Croatie, les Émirats Arabes Unis, la Russie, l'Lituanie. Bref, il y a beaucoup de pays.
On se rend compte qu'il n'y a pas spécialement non plus les pays de religion musulmane ou catholique. Non, c'est un peu réparti.
C'est un peu réparti, ouais, ça dépend vraiment. On sait que certains États de l'USA sont prohibitionnistes, d'autres non. Et puis, voilà.
Avec, vous savez, ça débouche sur quoi ? C'est-à-dire, par exemple, l'emprisonnement des prostituées ?
Mais bien sûr, c'est ça, ouais. les trois acteurs sont des délinquants.
D'accord.
Hein, donc on va arrêter les prostituées, on va arrêter les clients, on va arrêter les proxénètes.
D'accord.
C'est interdit.
Okay. D'accord.
C'est prohibé. Voilà. D'accord. Je ne dis pas que c'est toujours suivi des
faits. Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc le régime juridique, c'est ça. Alors, à l'opposé, c'est le réglementarisme. C'est-à-dire qu'on considère que la prostitution, que ce soit un mal nécessaire ou pas un mal, ou une activité commerciale, c'est tout à fait autorisé. Et c'est réglementé. Ça veut dire que dans les pays qui le proposent, l'Allemagne par exemple, il y a des zones protégées de prostitution, des zones de tolérance, il y a des fichiers sanitaires de police avec inscription des personnes en situation de prostitution, et il y a une tolérance au fait que ça arrive, et il n'y a que les proxénètes en fait qui sont quand même surveillés parce qu'ils sont considérés comme exploiteurs quand même. Hein, donc, mais c'est réglementé. C'est admis, c'est réglementé. Il y a la Suisse, la Belgique,
la Hollande, je crois.
La Hollande, qu'est-ce que j'ai comme pays?
C'est là où on peut trouver, par exemple, les vrais bordels, entre parenthèses, enfin, les maisons closes qui permettent justement plus facilement cette réglementation que la prostitution de rue.
Certains États de Catalogne, certaines maisons closes. Et donc en Allemagne, par exemple, vous avez des soldes. Vous avez pour une même somme, vous avez accès à deux prostituées. Voilà, donc c'est marchand, quoi. C'est le régime marchand, capitaliste à fond. Et rappelons, entre parenthèses, que dans tous les États, il y a un gain de cette activité. Ça génère énormément d'argent.
Parce que la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, c'est des pays protestants.
Oui, ah, pour vous, alors, il y a une... Comment dire, on s'éloigne un petit peu, mais il y a une compassion aussi pour la pauvre personne qui n'a que ça pour s'en sortir. Et en fait,
c'est pour son bien, la réglementation.
J'avais un copain camionneur, un ex-copain camionneur qui disait, mais moi quand je me fais faire une fellation sur le parking, mais je l'aide, cette femme, mais donne-lui à manger plutôt que de lui mettre ton sexe dans la bouche, quoi. Bref, voilà, ça commence fort.
D'accord.
On en était donc
réglementarisme et prohibition.
On a fait prohibitionnisme, réglementarisme. Enfin, on arrive à la position française, c'est l'abolitionnisme. Alors, l'abolitionnisme, c'est une belle histoire parce que c'est issu du mouvement féministe anglais. On va citer Judith Butler, Joséphine Butler, la première prohibitionniste. L'idée générale, c'est une valeur, si vous voulez. C'est contraire à la dignité humaine, la prostitution. Ça ne doit pas être contrôlé, mais ça ne doit pas être interdit parce que les personnes en situation de prostitution, alors je dis personnes parce qu'il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des personnes transidentitaires, mais très très majoritairement c'est quand même des femmes. La figure de la prostituée, la maman ou la putain, c'est quand même une femme. Et donc, dans l'abolitionnisme, cette personne est considérée comme une victime, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à comprendre les raisons de son apparition sur ce marché-là. Les raisons le plus souvent sont violentes et on considère que c'est une exploitation et pratiquement un esclavage. Donc la France est abolitionniste depuis 1960. Elle a ratifié une convention de l'ONU qui disait que la prostitution ne doit pas exister parce que c'est contraire à la dignité humaine. Et la France a une magnifique action. On parlait de loi pour la journée du 8 mars, on a parlé de loi. Il y a eu une loi courageuse en France le 13 avril 2016. Et cette loi est abolitionniste. Alors le nom de la loi est un petit peu long. Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées.
C'est le gouvernement Hollande.
C'est le gouvernement Hollande. Et je suis très fière d'avoir pu voir. J'ai pris un café avec François Hollande il y a quelques années et je lui ai dit que je le remerciais de cette loi. Parce que c'est une loi qui est faite sur le modèle nordique de l'abolition. C'est-à-dire que l'idée, c'est de considérer que c'est le client qui est l'acheteur d'actes sexuels qui est à l'origine de la demande. Voilà. Voilà pour les trois régimes, Nathalie. D'accord. Nous sommes dans un pays abolitionniste depuis 1960. Ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de ne pas considérer du tout que les prostituées étaient des victimes et de réintroduire leur arrêt pour racolage. Avec la vieille idée que quand on les arrête, ça traîne encore dans la tête de quelques préfets de droite. Quand on les arrête, on a accès à des renseignements sur le proxénétisme et tout, bref, voilà. Donc cette loi...
Elle a changé vraiment des choses dans la réalité, cette loi, ou est-ce que...
Oui.
Oui, vraiment.
Oui, elle a changé... Vous voulez qu'on en parle maintenant?
De toute façon, je pense que vu le sujet en le préparant, je vous ai dit
tout se mélange. Hein.
On aura des sujets pour au moins une deuxième, voire une troisième émission sur le sujet. C'est vrai que là, si on peut creuser bien là-dessus. Pourquoi pas
Alors, cette loi, elle est construite autour de quatre piliers. Accroître la lutte contre le proxénétisme, donner plus de moyens et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, et notamment sur Internet, puisque aujourd'hui la prostitution, ça passe énormément par là quand même, et protéger beaucoup plus les victimes. Donc, premier pilier, lutte accrue contre le proxénétisme, avec accord des pays européens pour dénoncer, puisque les réseaux vont d'un pays à l'autre. Deuxième pilier, donc la dépénalisation des personnes prostituées, et surtout leur accompagnement. pour les personnes qui veulent... Vous voyez, on va parler tout à l'heure de position, de regard féministe ou pas sur la prostitution, qui voudrait que ce soit un métier, mais on parle de sortir de la prostitution. On ne dit pas « je veux sortir de mon métier d'animateur, je veux sortir de mon métier de psychologue ». Ça veut dire que c'est quelque chose de violent quand même. Donc, accompagner par des associations, hein, les personnes qui veulent sortir de la prostitution, les accompagnant vers une insertion professionnelle, vers un accompagnement psychologique, médical, et ainsi de suite. Et pour les personnes qui sont issues de la traite des êtres humains, la création d'un parcours de sortie de prostitution qui se fait en commission départementale, où là, on présente les associations qui sont agréées pour ce parcours, et toutes ne le sont pas, proposent un dossier en préfecture, et on examine au cas par cas. Et ces personnes-là sont accompagnées pendant le parcours par ces associations, et touchent une aide financière qui s'appelle l'AFIS, qui est très... ce qui n'est pas très minime. Riche, qui est autour de 400 euros. On voulait, quand on a préparé la loi, on voulait que les acquis des proxénètes arrêtés servent au financement, mais finalement, bon, il a fallu laisser des plumes dans les lois. On fait des concessions pour que ce soit voté. Donc, accompagnement des personnes prostituées vers la sortie. Après, la prévention auprès des jeunes, hein, puisqu'on sait que c'est l'éducation, c'est très important. Donc, prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution. Avec des formations. Alors là, c'est laissé au libre cours des recteurs, des enseignants, des professeurs, des proviseurs. Ça peut être abordé pendant les cours sur l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité, sur la santé sexuelle. Mais alors, c'est un volet important parce qu'on sait très bien que les jeunes sont éduqués par la pornographie et la sexualité, très majoritairement. Et on sait très bien que dans la pornographie, c'est des viols tarifés. On considère en tant que féministe que la pornographie, c'est de la prostitution filmée. Et on sait dans quelles conditions les acteurs et actrices sont amenés à faire ces pratiques. Et donc, prévention pour alerter, ben, pour déjà parler de relations sexuelles, de respect, de consentement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est pas digne, quoi, de s'engager dans des pratiques pareilles. Et c'est aussi la prévention et du devenir client et du devenir proxénète.
Tous les enfin, on parle de la prostitution, là, c'est pas de la prostitution, mais ça pourrait presque l'être. Il y a tout le temps et régulièrement des cas, par exemple, de fellation obligatoire dans les chiottes des lycées qui sont filmées, partagées sur les réseaux, où les filles, après, rentrent en dépression complète parce que ça les détruit. Il y a même... Moi, j'avais entendu parler d'un... Enfin, c'est pas ça, c'est que c'est dans un collège où était le fils d'une amie, où la jeune fille s'apercevait même pas de ce qu'elle faisait. Enfin, elle était filmée, c'était partagé après, mais elle-même faire une fellation dans les toilettes du collège de c'est pas Montagnac, c'était dans ce coin-là.
Dans de nombreux collèges, ouais, ça existait.
Voilà, hein, c'est affreux ça quand même. Ça...
Bah, c'est affreux, c'est... Alors, comment dire, si les jeunes filles sont amenées à faire ça, c'est que c'est... dans la mesure où il y a éducation par la pornographie, la fellation, la sodomie, ça fait partie des pratiques. Ouais, donc, pourquoi pas. Et puis, il y a une valorisation glamour de la prostitution aussi chez les jeunes. Hein, faut pas, hein, on a des héroïnes. Il y a l'argent facile. Enfin bref, mais c'est dans ce les mœurs. Quoi. Et c'est un engrenage.
Mais ça serait peut-être intéressant un jour... peut-être pas avec moi, mais aussi avec quelqu'un qui est, vous connaissez beaucoup de gens, qui sont acteurs là-dedans, de faire une émission complète sur cette prostitution de la jeunesse.
Alors, il y a beaucoup avec à dire aussi, hein, on va en reparler. Ouais. Et puis le quatrième volet de cette loi, alors là, c'est une révolution, et c'est ça, la loi a été retenue comme ça, alors qu'il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on appelle la pénalisation des clients, c'est-à-dire l'interdiction de l'achat d'actes sexuels et la responsabilité des clients de la prostitution.
C'était là-dessus le sens de ma question tout à l'heure. Est-ce que là-dessus, ça a évolué, par exemple ?
Alors, comment dire ? Il est difficile de changer de regard. On est en train de le faire, voyez ? On est en train de se dire, ben, y a de la violence masculine et on va commencer à croire les femmes et à les considérer comme victimes. Donc, il faut responsabiliser les hommes là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait cette émission avec William, hein, sur la déconstruction de la virilité toxique. Donc, l'idée, c'est qu'on responsabilise le client sur son rôle dans ce système. Et donc, si on le prend sur le fait, ce qui n'est pas si difficile, hein, c'est ce qu'on lui dit, ouais, mais on ne peut pas. Il a une amende de 1 500 euros. Et on peut lui proposer un stage de sensibilisation à la prostitution avec des personnes anciennement prostituées qui viennent lui dire ce que c'est, en fait. Et là, ben, c'est un petit peu comme les stages pour avoir pour recouvrer son permis. Points, voilà, c'est... Mais on essaye de faire comprendre qu'on n'achète pas le corps d'une femme pour le pénétrer, pour y introduire son sexe ou ce qu'on veut, pour jouir dedans. Non, ça ne se fait pas. La relation humaine ne s'achète pas. Donc, on essaye d'apprendre là-dessus. Alors, vous me parliez des effets de cette loi. Les parcours de sortie, ils sont, comment dire, c'est par département, organisé par département. Dans la mesure où c'est fait quasi essentiellement pour des personnes étrangères, j'ai envie de dire que plus on se rapproche de Nice, moins on fait de parcours de sortie, parce que ça peut être considéré comme une stratégie pour pouvoir rester en France, ce qui est faux quand même. Par rapport à la responsabilisation des clients, depuis 2016, il y a 500 clients qui ont eu une amende par an. Quand on sait quand on sait qu'il y a entre 40 000 et 60 000 personnes en situation de prostitution, dont au moins 10 000 mineurs, sachant que la loi pour la pénalisation des clients mineurs, elle est pire, elle existe depuis 2002. Et la responsabilisation des clients, c'est quand même de la prison et une amende bien plus chère. Mais il y a très peu de procès. Il y a eu 2 procès à Béziers il y a 3 ans par des hommes qui avaient été arrêtés. Et puis on nous dit que c'est difficile d'arrêter des clients. Moi, je fais partie de l'Amicale du Nid, une des associations abolitionnistes qui fait les parcours de sortie, qui accompagne les personnes. On nous dit que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on arrête la prostituée, on a accès à des renseignements. Et moi, j'ai toujours demandé aux policiers dans la rue, quand je les croise, mais pourquoi vous arrêtez la femme et pas... Je veux dire, le client est en face de vous. Pourquoi vous ne faites pas un demi-tour sur vous pour, puisque la loi vous y autorise. Ah, mais on n'a pas assez de moyens. Et puis, c'est politique.
Bien sûr.
Et on a compris qu'il y a de la fraternité en politique.
Non, c'est politique, c'est culturel. Enfin bon, culturel. Ça serait aussi une émission passionnante qu'on pourrait faire sur, je voulais vous en parler, mais ça nous emmènerait trop loin, mais sur l'image de la prostituée, notamment dans la littérature. Enfin, je pense à Nana, je pense à la dérobade. Il y a quand même toute cette image de la prostitution presque nécessaire.
Ben Nana, c'est pas très drôle, hein, la dérobade non plus.
Ben non, ça se finit mal. Mais c'est quand même historiquement, je pense aussi à cette série qui avait été tournée pour Canal+, qui était magnifique sur les bordels. C'était magnifique, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais en même temps, il y a une représentation de l'image de la prostituée à travers l'histoire extrêmement triste. Et extrêmement nécessaire. Moi, c'est cette espèce de nécessité qui fait que...
Mais nécessaire pourquoi ?
Ben, parce que si vous parlez à certains mecs, alors heureusement, les jeunes n'ont plus tellement ce discours.
Il y en a pas mal qui vont en Espagne le week-end.
Oui, mais c'est... S'il n'y avait pas les prostituées, les mecs, ils violeraient nos enfants.
C'est terrible.
Vous voyez, ce que c'est ça comme... Mais vous n'entendez jamais ça, Françoise ?
Mais je les connais par cœur, Nathalie, ces arguments. Mais c'est affreux. Je crois qu'on n'a que 40 minutes pour en parler. Ouais. Ça veut dire qu'il faut sacrifier... un quota de femmes pour servir de réceptacle aux besoins sexuels irrépressibles des hommes. Quels sont ces hommes avec qui nous vivons qui auraient des besoins irrépressibles au point d'avoir besoin, s'ils n'ont pas des femmes à disposition ou des enfants ou des autres hommes, ils vont les violer ? Est-ce qu'on est entouré d'animaux ? Comme disait Camus, un homme, ça s'empêche, pas seulement de tuer et de torturer, puisque c'était le contexte de la phrase de Camus, mais on a un cerveau quand même, on a un cortex. Hein, on n'est pas que des animaux. Donc, au nom de quoi on sacrifierait des femmes, un quota de femmes, pour la sécurité des autres ? Et puis, on sait que il n'y a pas de lien entre un régime de prostitution et les viols. Des viols, il y en a toujours. On sait que n'importe quel homme peut être amené à violer. Je suis désolée pour des hommes qui entendent ça. Je connais des militaires. Quand le garçon est en groupe et qu'il y a de l'alcool... Eh bien, c'est facile. Les troisièmes mi-temps de rugby, on en a longtemps parlé. On a très peur de ce qui va se passer, les associations abolitionnistes pour les Jeux Olympiques.
Ce qui va se passer en...
Parce qu'on sait déjà qu'on vend, ils sont vendus des billets de location, d'entrée et de prostitution. Il y a un pack qui est déjà organisé, vous voyez. Donc cette histoire de nécessité d'avoir des ventres à disposition, là aussi, d'avoir des corps, des bouches, des anus, non, c'est indigne, juste ça.
On va marquer une pause musicale parce qu'on en a un peu besoin. Voilà, parce qu'on va se recentrer sur quelques questions parce qu'on en a tellement. Et puis vous avez choisi pour nous, c'est vous qui avez choisi, Françoise.
Oui, alors on en a besoin, mais la chanson est très illustratrice.
Voilà.
Hein, voilà.
C'est Linda Lemay.
Va rejoindre ta femme maintenant que tu as eu ton plaisir, etc., etc.
On écoute et on remercie Adrien qui nous accompagne.
Va rejoindre ta femme maintenant que t'as eu ton plaisir, que j'ai eu mon argent. Allez, je vais pas te retenir, je sors de ton camion. T'as eu ton aventure, remonte ton pantalon, rattache ta ceinture, puis boucle l'autre ceinture, puis sois prudent, petit con, et boucle-la. Bien sûr, rendu à la maison, va rejoindre ton monde maintenant que t'as maté ma poitrine en te contrefichant de ma mauvaise mine. Va prendre ta douche, monsieur, va faire le beau, le propre. J'imagine que c'est mieux que de faire la salope. T'es en retard, mon vieux. Va rejoindre ta femme, dépêche. Je suis convaincue que tu veux que ta salade soit fraîche, mon cul. Ça, tu t'en fous. Allez, pourvu que tu puisses me fouiller tout partout et me gifler les cuisses, pourvu que j'obéisse pendant ces longues minutes, le temps que ça finisse, le temps. Rejoindre ta douce maintenant que t'as craché tes sous, va donc te mettre à genoux, jouer avec tes enfants. Moi, quand je me mets à genoux, je joue avec des grands. Je m'amuse pas beaucoup, mais je fais bien semblant. Va donc rejoindre tes proches maintenant que t'es soulagé, que tu t'es vidé les poches et que tu me donnes congé. Je m'en vais tout de suite, je vais te laisser reprendre ton petit train-train. Fais vite, ta famille va t'attendre. Tu réalises ton plus récent fantasme. Tu te déculpabilises en brandissant tes piastres. Et tu retournes tranquille à ta petite vie rangée là-bas, dans l'ouest de l'île, derrière tes peupliers. Quand tu pars en camping, à la pêche, à la truite, lorsque tu lances ta ligne, moi j'en renifle 18. Mais tu t'en fous, bien sûr, tu fais de mal à personne. Même que l'argent que tu me donnes me fera une bonne piqûre. Et je serai bien comme toi lorsque tu t'assoiras devant le bon repas qu'elle te servira.
Voilà. Vous êtes sur Radio FM Plus dans le féminisme de Françoise Mariotti. Et comme vous disiez, Françoise, avant d'écouter la chanson, tout est dit.
Tout est dit parce que cette chanson nous fait vivre. Comment dire ? La prostitution, c'est pas une idée. C'est pas une idée. C'est pas un débat. C'est un combat. Et là, on vit vraiment ce que vit à l'intérieur d'elle-même une personne, en l'occurrence là une femme, pendant la prostitution. Et la prostitution, rappelons quand même que c'est subir sans aucun désir. Il n'y a pas de désir sexuel dans cette relation complètement hiérarchisée, c'est subir des actes sexuels, la bouche, l'anus, le vagin, pénétrer des attouchements, pénétrer par plein de choses, plusieurs fois par jour, quelques fois tous les jours, de la part d'hommes inconnus et imprévisibles, en supportant leur violence, leur mépris, leur crasse. Alors des fois, ils viennent parler, les pauvres, ils ont besoin de psychologues, ils viennent parler.
Oui, c'est exactement ce que je disais quand je vous parlais de culture. Je sais, enfin moi, vous savez que je suis une femme du livre et de l'art, par exemple. Il y a tout un truc, quand on voit les peintures de Toulouse-Lautrec, c'est ces femmes accueillantes qui vont écouter le bourgeois parce que leur bourgeoise ne veut plus. Évidemment, leur bourgeoise, elles accumulaient les enfants d'une façon absolument abominable. Cette justification permanente de la part des hommes...
Cette justification, ce manque d'empathie, cet égoïsme profond de ne pas voir ce que ça entraîne chez l'autre. Non. Parce que la Michaël Duny vient de sortir un petit livre sur les dommages de la prostitution, des pratiques prostitutionnelles sur la santé des personnes qui la vivent. Et donc, c'est une liste énorme, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des violences physiques, des menaces, des violences psychologiques, des dégâts sur le corps, des dégâts sociétaux, parce que on pourrait dire que si maintenant c'est considéré comme un métier, ça sera admis, on parlera plus de putain. Putain, c'est une injure quand même. Et c'est tellement ancré dans la prostitution comme une injure, comme quelque chose de sale, on le dit tous. Quelquefois, tous les jours. Alors, avec nos copines féministes, on va dire purin, victime. Mais ça ne sonne pas pareil. Mm-hmm. Donc, voilà, il y a des dommages irréversibles sur la santé des femmes. Il faut savoir que pour supporter une passe, je rappelle, il n'y a pas de désir. Un jour, je discutais avec une jeune femme qui revendiquait que ce soit un métier. Je lui disais, mais combien de tubes de vaseline vous utilisez par jour ? Il faut parler de ces détails aussi. Et pour supporter cette passe, il y a un mécanisme psychologique qui s'appelle la dissociation, c'est-à-dire que le cerveau se sépare de ce que le corps vit. C'est ce qui permet de supporter plusieurs passes par jour. Mais donc, il y a des déchirures anales, vaginales, il y a des dents abîmées par les fellations. Je veux dire, je peux faire trembler de terreur certaines personnes, mais c'est ça la réalité, quoi. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et puis, c'est pas de la sexualité pour les femmes, pour les hommes qui sont prostituées, qui sont temporairement en activité prostitutionnelle, c'est pas de l'échange
parce
de
qu'on,
sexualité.
On en parle peu, mais pas. Enfin, c'est ce que dit, par exemple, je me rappelle plus quel est l'auteur de Louise, celle qui a écrit La Dérobade, qui raconte sa vie. Elle allait à un moment jusqu'à 50 passes par jour dans des espèces de
Jeanne Cordelier,
voilà. En plus, que j'avais eu la chance de rencontrer, qui était une femme formidable.
D'accord.
Vraiment, vraiment une très belle femme. Et elle expliquait que c'était en plus dans des endroits évidemment sordides, c'est et c'était les ouvriers à la chaîne, 50 par jour. Comment peut-on même... comment le corps peut...
Le corps peut, il craque. Après, vous me parlez de l'endroit. J'ai parlé à de nombreuses personnes qui ont vécu ça, mais quel que soit l'endroit, une fois que la porte est fermée avec le client, même si le proxénète est dehors, le client peut tout faire, il paye. Alors bien sûr, il y a un contrat, il y a une liste, la prostituée va faire ça, je paye pour ça, mais le domaine de la sexualité, c'est un domaine où il n'y a plus de cadre.
Elle expliquait, c'était important, et j'ai vu dans d'autres témoignages, que si vous voulez, c'était dans les années 60-70, des chantiers de BTP qui arrivaient avec des ouvriers européens qui ne savaient pas parler, voire même d'Afrique du Nord, et il y avait l'Algeco à la prostitution.
En Suisse, c'est comme ça, dans les parkings.
Voilà.
Et on peut garer sa voiture. Et puis
ça allait avec le chantier, oui. C'est-à-dire que...
Mais voyez, vous, c'est comme si vous me disiez, ça ne peut être que sordide, mais j'étais sidérée que sur Netflix, pour la Saint-Valentin, on nous propose le film avec Richard Gere et...
Pretty Woman,
parce que c'est tellement joli, c'est tellement beau. Puis je vois qu'à un moment dans ce film, on le connaît tout, on l'a vu souvent. Elle est en train de parler, elle s'anime, elle parle avec lui, puis il amène sur les lieux difficiles. Bon, maintenant, elle est en train de parler, quoi. J'ai envie de baiser, quoi.
Ouais.
Donc, alors ça finit bien, ça fait rêver. C'est le prince charmant. Attendez, le prince charmant, il n'est pas toujours doux. Et j'ai une prostituée qui disait, mais même l'homme le plus gentil qui était avec moi, c'était quand même le plus violent, parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il me faisait. Il ne se rendait pas compte que je n'avais pas envie de lui, que je me forçais, que je... Puis elles se forcent pour que ça finisse plus vite, de toute façon. Et même quand elles écoutent, elles sont quand même... On sait bien que le... Il n'est pas venu parler à une psychologue, le mec, quand même. Mmh. Hein? Donc il y a beaucoup de souffrance à la clé, on ne le dit pas assez. Et il y a des femmes qui disent, mais la vie est dure, je revendique ça, je revendique de le vivre. Mais pourquoi on permettrait ça? On sait que ces personnes-là qui ont vécu ça seulement quelques années, des années encore, elles le vivent dans leur corps, elles ont de l'eczéma, elles prennent des douches plusieurs fois par jour. Alors on peut être dans le déni et dire, bah, ça me fait vivre, donc s'il faut faire ça pour faire vivre, ça paraît simple, c'est pas simple. On parle d'argent facile, c'est pas de l'argent, c'est pas facile.
Et l'école Virginie Despentes, alors qu'ils pensent ça comme une émancipation?
Virginie Despentes a vécu un viol. Et ce qu'on sait dans ces phénomènes de traumatisme violent, c'est que le corps, pour supporter ça, à un moment, le cerveau sécrète comme une drogue, des endorphines, de la kétamine, enfin je ne vais pas rentrer dans l'explication des circuits neuronaux qui permettent ça. Et donc cet afflux de drogue massive qui permet de supporter ça, ça a laissé une trace dans le cerveau. Et après, il peut se trouver que des femmes ayant vécu ça se disent, quand la vie ne va pas, je vais essayer de retrouver ce qui s'est passé dans mon cerveau et je vais retourner me prostituer. Être prostituée. C'est terrible de le vivre comme ça. Et puis il y a aussi cette idée qui peut être chouette, mais qui est fausse et qui est stupide, de dire, ah, mais de toute façon, les mecs, ils nous baissent gratuitement. Ils nous épousent, mais on sait très bien que voilà, il y a le devoir conjugal et tout. On leur doit du sexe. Cette fois-ci, on va les faire payer. On va les faire payer, mais oui, mais bon, est-ce que c'est une... Je veux dire, c'est pas pour ça que ça donne du désir aux femmes. C'est quand même quelque chose d'hyper intime. Je veux dire, je vous aime bien, Nathalie, mais si vous vous approchez de ma bouche pour me faire le bisou, ça va encore. Mais si vous touchez mon corps et que j'en ai pas envie, les jeunes hommes derrière la vitre, ils vont avoir envie de moi. Mais moi, si j'ai pas envie, je vais le vivre comment? C'est une pénétration de mon intimité. C'est pas important, l'intimité, pour les gens? On parle de distance intime, de distance sociale, hein. Il y a un psychologue qui a travaillé là-dessus, mais c'est une violation terrible de notre espace intime, ça. Comment ça se supporte? Alors l'argent permet de supporter. Les personnes en situation de prostitution disent, mais pendant la passe, je pense à l'argent. Je pense que je vais pouvoir nourrir mon enfant, je vais pouvoir mettre de côté pour un métier. On peut faire autrement quand même.
Parce qu'il y a le même regard sur toute forme de prostitution, je dirais la chic. Et puis là, des bords de route de Nîmes, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a autant de formes de prostitution que de femmes qui se prostituent.
Ou que d'hommes
qui se prostituent.
Ce qui est majoritairement stable, c'est que c'est l'homme le client. Alors il doit y avoir... Alors juste pour dire sur les chiffres sur la prostitution, les chiffres, on ne les a que par la police ou les associations qui s'occupent. Hein. On sait que maintenant, c'est décuplé sur Internet et qu'on fait des maraudes aussi sur Internet. Mais donc, c'est ça, la variable, c'est l'homme qui est client. Et proxénète, très, très, très majoritairement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que la porte est fermée, que ce soit un ouvrier, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un lit avec des draps de satin, c'est la même chose. Il n'y a pas d'envie de la personne. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Après, on va dire, oh, on a des cours de relations sexuelles, on va apprendre le consentement. Mais le consentement, c'est un truc pour les femmes, quoi. L'homme est toujours vu comme... il n'a pas besoin de consentir, lui, il a tout le temps envie. Mais c'est une vision terriblement triste de l'humanité, je trouve.
Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui... Vous parliez de Pretty Woman. Dans Pretty Woman, on en fait presque un conte de fées. La dérobade, beaucoup moins. Mais
beaucoup moins. Après, ça alimente les fantasmes.
Ou Christiane F.
Moi, violée, prostituée. Mais bien sûr. Alors, on pourrait... Je brosse un tableau misérabiliste, mais c'est quand même ça, la vérité. Parce que nous, dans les associations abolitionnistes, on les écoute, ces femmes.
Avant, justement, de parler des différents mouvements qui luttent contre ces populations, je voudrais m'arrêter sur une phrase que dit Geneviève Duché, et qui est, pour moi, alors, catastrophique. C'est quand la prostitution sera abolie, un des principaux verrous de la domination masculine aura sauté. Mais quand? Parce qu'aujourd'hui, on enregistre, l'émission va être diffusée le 14,
oui.
Mais on enregistre journée des droits des femmes. Il n'est pas prêt de sauter, ce verrou de domination masculine?
Alors, on voit quand même, les chiffres sont que dans les pays abolitionnistes, il y a de moins en moins de clients. et il y a de moins en moins de prostitution, donc, puisque voilà, l'un ne va pas sans l'autre.
Et il n'y a pas plus de viols.
Mais il n'y a pas plus de viols, ça n'a rien, ouais, rien à voir en fait.
On mélange tout là.
On mélange tout. Mm-hmm. Et puis dans les pays nordiques où les premières lois qui pénalisaient les clients sont nées, il y avait déjà eu des années avant, c'est pour ça que les lois ont fonctionné, l'éducation des enfants à la relation sexuelle. L'éducation à l'égalité, ce sont des pays très égalitaires. Et maintenant, il est très mal vu pour les hommes d'avoir recours à la prostitution. C'est considéré comme des losers, mm-hmm. les hommes qui ont recours à ça. Quoi, t'es même pas capable de séduire une femme? Alors, on sait que c'est pas la séduction, c'est pas évident. Hein, mais voilà, c'est de la lâcheté. Donc, on est en train de se diriger vers une prise de conscience. Et les associations abolitionnistes, malheureusement, alors là je suis un petit peu en colère, l'État n'a pas suivi. On devrait communiquer là-dessus. C'était prévu. Avec toutes ces nouvelles ministres aux droits des femmes qu'on nommait tous les 8 mois, là, on ne peut pas suivre. Mais il faut une politique de prévention. Il y a des mairies qui s'emparent de ça, qui font des affiches. Ici, la prostitution, les clients sont arrêtés, il faut que ce soit volontariste. Alors après, on nous dit, mais aux associations de proposer quelque chose aux mairies pour faire des campagnes. Nous avons un maire à Montpellier qui est fondamentalement abolitionniste, Michael Delafosse, il a signé la pétition des zéro macho. Donc, c'est en marche. C'est en marche, il faut le rappeler, il faut dénoncer. Malheureusement, il y a beaucoup. On est dans une société libérale. On est dans une société où être victime, c'est pas bien. Il faut pas se plaindre, il faut être forte, il faut se battre, il faut choisir. Et donc, il y a un courant qui dit que ça serait tellement bien pour les femmes de le revendiquer, de se professionnaliser. Et quand elles sont pas des victimes, elles sont pas des victimes, mais elles vivent la passe comme les autres. Mmh. Et donc, il y a un pas en avant, un pas en arrière. On fait ce qu'on peut, et cette émission, oui, avec les moyens qu'on a, comment on est écouté, on remet presque en question un droit, hein, le droit à la sexualité, mais pas en payant quelqu'un pour ça. Mm. Est-ce que je paye, moi, j'ai pas de petits-enfants, je vais aller m'acheter un petit enfant? Il paraît que ça se fait, hein. Il y a des associations qui proposent des grands-parents de substitution, mais voilà, c'est pas un progrès, quoi.
Pour clôturer l'émission, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Vous pouvez nous dire, Françoise, aujourd'hui, quelles sont vraiment les associations visibles qui s'occupent justement de l'aide et de soutenir et,
d'accord.
et, comme vous disiez, alors, de sortir de ça.
Alors, depuis 1949, il y a ce qu'on appelle le NID, qui est séparé entre l'amicale du NID et le mouvement du NID. On fait exactement la même chose avec des moyens différents. Une association avec des salariés, une association avec des bénévoles. Il y a la fondation CEL, il y a le CIDF aussi. Après, il y a, par département, il y a des associations qui ont des noms particuliers, si vous voulez, qui s'occupent. Mais majoritairement, ce sont ces grosses associations qui font les parcours de sortie, elles, qui se regroupent avec l'international, comme CAP International, qui soutient aussi, il y a le lobby européen des femmes. Bref, il y a énormément d'associations. Après, il y a des associations, comme on dit, communautaires, qui vont aussi faire des maraudes, mais qui sont pour la prévention des risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision à long terme. On sait qu'il y a des risques, il y a des dommages, il y a des blessures, il y a des comportements de violence. Et elles vont ne pas agir sur le fait qu'il faudrait sortir de la prostitution. Et vous faites ce que vous voulez. Si vous dites que c'est un métier, tant pis pour vous, tant mieux pour vous. Donc Médecins du Monde est de ce côté-là, mais ce n'est pas des associations qui ont pour projet politique déjà d'appliquer la loi. Cette loi est attaquée et propose une aide, effectivement, mais voilà, ça entretient une dissonance cognitive, quoi. Je suis là parce que je l'ai voulu et en même temps j'en souffre, mais je ne le dirai jamais, je ne l'avouerai pas. Donc c'est assez compliqué dans la tête quand même. Hein.
Et ben, c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter aujourd'hui, mais je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Françoise, mais on pourra revenir sur ce sujet.
On peut le faire une fois par an.
Oui, voilà, c'est quand même un sujet. C'est pas quand même.
Mais ça nous touche toutes, parce que tant qu'on peut acheter une femme, on peut toutes les acheter. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Il y a de la solidarité, bien sûr. Moi, j'écoutais des personnes qui ont vécu ça, et je peux comprendre pourquoi elles ont été livrées par ça, par plein de violences vécues avant. Mais après, globalement, au niveau politique, c'est même pour les hommes, c'est pas. Il faut faire autre chose, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à dans un mois pour un autre rendez-vous. Je ne sais pas quel est le thème qu'on a choisi pour la prochaine fois, mais...
Vous allez me donner des rênes, Nathalie. Je vais recevoir l'adjointe au maire Fatma Nakib, qui est déléguée aux droits des femmes à la mairie de Montpellier et qui met en œuvre des tas de choses. On va faire un bilan ensemble et on va parler de son féminisme, du féminisme d'État pour une fois.
Eh bien, super. D'accord. À dans un mois.
Merci.
Au revoir. Le féminisme de
Françoise Mariotti.